Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.
Amen.
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.
Amen.
Et la salle est avec ceux qui étaient là, mais les jeunes qui chantaient, ils sont où? Les jeunes qui chantaient, ils sont où? Nous allons lire une portion de l'Écriture dans 1 Roi. 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 3. Un roi, 2, verset 1 à 3. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouveras. Notre sujet ce matin, c'est un père responsable. Un père responsable. Après Adam, il n'y a aucun être humain qui soit né sans l'intervention d'un homme. Même s'il s'agit d'une mère porteuse. Donc si la femme est la mère de tous les vivants, l'homme est à son tour le père de tous les humains. Une façon pour vous dire que chacun joue son rôle. Pour contempler l'humanité que nous sommes aujourd'hui. Cependant, le monde est divisé en deux catégories distinctes. Une qui a pour père le Dieu de vérité, le créateur du monde, le Tout-Puissant, ce Dieu que nous servons ce matin. Pourtant, il y a une autre catégorie qui a pour père Satan, le destructeur, le père du mensonge. La leçon de ce matin du pasteur Aldo avait bien mentionné Satan, il est là. Satan est au ciel. Il est ici. Et c'est lui qui est l'auteur du mensonge, des déchirements, des disputes. Alors, dans ces deux types de pères, nous sommes quels fils? Est-ce que nous sommes les fils de Dieu, le Créateur, le Dieu de vérité, ou bien nous sommes le fils de Satan, le menteur, le destructeur? Tout le monde cherche la construction. C'est Dieu qui construit. Mais Satan, il est là pour détruire. Vous pouvez faire un choix. Salomon dit, un fils sage fait la joie de son père. Et un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Nous sommes tous, ce matin, considérés comme fils de Dieu. Est-ce que nous faisons la joie de notre père? Ou bien le chagrin de nos mères. Un père responsable reste et demeure le meilleur conseiller pour son fils. Parce qu'il rêve toujours de son bonheur. C'est l'énigme que les enfants ne peuvent pas comprendre ou ne veulent pas accepter. Le père se sacrifie toujours pour que son fils obtienne quelque chose de bon. Pour ses études, pour sa santé, pour son bien. Et alors, fort souvent, les enfants cherchent ailleurs. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Mais il y a un pub. Cette pub, c'est du Renault. Qui dit, qui mieux que Renault peut réparer votre Renault? Vous cherchez ailleurs, vous laissez votre père. Le père céleste et le père biologique. Alors, qui mieux que peut vous garder, vous protéger, vous soigner? On a toujours besoin de son père. Comme on a toujours besoin d'un plus grand que soi. Dans toute sa vie. L'adage dit on a souvent besoin d'un plus petit que soi, mais nous pouvons dire qu'on a toujours besoin d'un plus grand que soi. L'expérience de David est un atout et il la recommande à son fils. Il ordonne à Salomon de se fortifier et d'être un homme. C'est un héritage, tel père, tel fils. C'est ce qu'il rêve. Moïse aussi l'avait fait pour Josué. Au seuil, au soir de sa vie. La force est dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc si Christ ne vit pas en nous, si nous ne sommes pas dirigés par l'Esprit de Dieu, nous sommes les plus vulnérables dans ce monde. Sans force, sans sécurité et sans secours. Si vous cherchez à vous fortifier ailleurs, vous cherchez mal, puisque la force est en Christ et en Christ seul. Dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, Ésaïe 40, 39 à 31, il dit, l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc nous devons nous fortifier en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Paul disait, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Jésus est notre force. Notre consolation, notre ami suprême et notre bon berger. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus peut nous fortifier dans la joie. Il peut nous fortifier dans la paix. Il peut nous fortifier dans l'amour. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu qui habite en vous, vous ne pouvez pas avoir la paix, vous ne pouvez pas avoir la joie, vous ne pouvez pas avoir l'amour. David exhorte son enfant à obéir au commandement de Dieu. Comment? En marchant dans ses voies, en observant sa parole et en gardant ses préceptes, ses ordonnances. Pourquoi? Afin de réussir dans sa vie. Depuis les psaumes 1er, Josué chapitre 1er, verset 8, ça veut dire quand on lit la parole, quand on est resté sous l'obéissance, dans l'obéissance de la parole de Dieu, mais votre vie est déjà une vie réussie. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Peu importe. Mais la seule chose que nous pouvons dire, si vous pratiquez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu comme il se doit, eh bien, votre vie, c'est une vie réussie. Réussie en Jésus. Alors, si nous voulons avoir du succès dans notre vie, il faut que nous donnions place, une place prépondérante à la parole de Dieu, à la mise en pratique de cette parole. David était un modèle de père. Et Dieu a rendu témoignage de lui qu'il est un homme selon mon cœur. C'est Dieu qui l'a dit. David est un homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut le dire de la même façon pour chaque père, pour chaque homme ce matin? Et dans un contexte ou d'un autre, prend tout chacun de nous ce matin pour parler d'un seul homme composé de femmes et d'hommes. Est-ce que Dieu peut dire cet homme, cette femme est selon mon cœur? Ce n'est pas n'importe quel témoignage. Et David recommande à Salomon qu'il soit un homme en obéissant aux ordonnances de Dieu. Parce que à travers les journaux écrits, les journaux parlés et les journaux télévisés, nous pouvons dire que le problème du monde aujourd'hui est un problème d'homme. Et Paul les témoigne. Nous vivons dans un monde de menteurs, un monde de voleurs, un monde de blasphémateurs, un monde de corruption sur toute la ligne. Et mercredi dernier, nous étions sur le sujet. Et le pasteur a dit, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons laisser les pays diriger sans président? Puisque tous les présidents sont corrompus. Sans hommes d'État, puisque tous les hommes d'État sont corrompus. Qui est le modèle à suivre? Regarde ce que Timothée avait dit à Paul. Et Paul avait dit à Timothée. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Du verset 2 au verset 5. Paul dit à Timothée, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que le Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est la force. Et il a dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que ce n'est pas notre modèle. Ce n'est pas de bons exemples.
Et pourtant, ce sont ces hommes-là qui sont nos amis. C'est avec ces hommes-là nous parlons, nous causons. C'est avec ces hommes-là nous partageons nos secrets.
Comment voulez-vous qu'il y ait de bonnes choses? Comment voulez-vous qu'il y ait de bonheur? Mes frères, les pères, nous avons des obligations envers nos enfants. Est-ce que nous assumons nos responsabilités? Dans la maison, est-ce que les enfants nous voient et nous entendent? Sinon, nous sommes des pères embryonnaires, des pères irresponsables. Et la scénette qui était là, il y a beaucoup de leçons là-dedans. Hein? Un père, il est sorti travailler, il est entré fatigué, c'est sur la table. Rien ne lui intéresse. Il n'a pas besoin de savoir si l'enfant est dehors ou bien s'il est là. Si l'enfant a déjà fait ses devoirs ou bien s'il est là, il trouve son décor à manger, canapé. C'est ça un père. Dans l'Ancien Testament, les pères supervisent la pratique religieuse des enfants. Genèse 35, verset 2. Regardons. Genèse, chapitre 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Qu'est-ce que Jacob voulait dire par là? Il voulait que dans la maison, il y a une sorte de purification. Il voulait que dans la maison, il y ait une consécration à Dieu. Le père, il est rentré. Et avant, la maman était là. La fille passe toute sa journée au téléphone, SMS. Images qui viennent de partout. Il n'a pas le temps pour d'autres choses. Le père est arrivé, il n'a pas besoin de savoir comment était, qu'est-ce qui était. C'est un père embryonnaire, il n'est pas encore père. C'est un père irresponsable. Les pères sont responsables de l'éducation de ses enfants. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 19. L'Éternel dit, j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ça veut dire que dans la maison, il faut qu'il y ait la droiture. La justice de Dieu. Et l'Éternel, il va plus loin dans Deutéronome 6. Hein? Deutéronome chapitre 6, du verset 5 au verset 7. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
et ses commandements que je te donne aujourd'hui seront dans son cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Papa, ce matin, est-ce que ce travail est fait? Inculquer, ça veut dire c'est faire entrer ou graver dans l'esprit quelque chose très profond. La parole de Dieu. Qu'il fallait imprimer dans l'esprit de tes enfants. Est-ce que ce travail est fait? Et David, il voulait obéir à la lettre, la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a demandé à Salomon de mettre en pratique ce que l'Éternel a dit. Et ce n'était pas seulement dans l'Ancien Testament où les pères devaient endosser leurs responsabilités. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a des devoirs. Le devoir d'un père dans le Nouveau Testament est de prendre soin de ses enfants. Mais si l'enfant est né, c'est votre enfant. Vous avez un devoir envers lui. Il faut qu'il aille à l'école. C'est vrai, nous sommes dans un pays développé où l'enfant est allé à l'école, on n'a rien payé. Peut-être les contributions que vous donnez permettent qu'on paye les professeurs. Oui, mais il ne faut pas voir seulement la France. Il faut voir les pays sous-développés où les enfants n'ont pas de chaussures, les enfants n'ont pas de vêtements, les enfants n'ont de rien pour vivre. Et il y a des pères qui peuvent leur envoyer à l'école qui ne le font pas. Des pères qui ne prennent pas leurs responsabilités. De Corinthiens chapitre 12, verset 14. Paul l'a mentionné. Comme un père avec ses enfants, Paul voulait prendre soin de l'Église sans qu'il n'en coûte rien à ses membres. Selon De Corinthiens 12, verset 14. C'est un exemple. Le père a le devoir d'éduquer ses enfants. Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Père, n'irritez pas vos enfants, mais éduquez-les selon la parole de Dieu. Un auteur a dit que l'éducation peut changer tout un monde. Si votre enfant n'est pas éduqué, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Quand l'enfant n'a pas une bonne éducation, il est difficile qu'il s'adapte au mobile de la vie. Dans la violence, dans l'intolérance, dans l'agressivité. Donc vous avez la responsabilité d'éduquer votre enfant. Et Paul, il va aussi. Les évêques et les diacres ont aussi des devoirs en tant que père. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 4, c'est mentionné. 1 Timothée chapitre 3. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 4. Il faut que les évêques et les diacres dirigent bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. C'est une responsabilité.
Et cette responsabilité, est-ce que c'est mise en pratique? Car Dieu, si un père n'a pas soin de sa famille, il ment en disant qu'il connaît Dieu, puisque Dieu l'a demandé de faire. Et c'est pire qu'un infidèle. Parce que si nous, en tant que père spirituel, en tant que père qui connaît la parole de Dieu, nous ne faisons pas ce que la Bible a demandé. Comment allons-nous demander au père païen de le faire? Ça veut dire, nous sommes dans le mensonge. Beaucoup de pères sont démissionnés aujourd'hui. Et délèguent leur responsabilité au maire. C'est au maire de faire ceci, c'est au maire de faire cela, mais nous sommes où, les pères? Nous avons des comptes à rendre devant Dieu, comme chef de la famille. Ça veut dire, si un adversaire arrive dans la maison, la première personne que cet adversaire doit toucher, c'est le père. C'est notre responsabilité. Alors, c'est une façon de parler pour dire, tout ce qui se passe dans la maison, c'est nous les responsables, nous les pères. Ce n'est pas aux mères. Quand nous n'exhortons pas, quand il y a trop de laxisme, de laisser-aller et d'insouciance, quand nous ne décidons pas, quand nous ne donnons et notre autorité, notre responsabilité devient préjudiciable. Puisque c'est le père qui est responsable de la famille. Bon, il est bien, on peut comprendre, aujourd'hui, avec le chômage, il y a des hauts et des bas. Quand c'est la mère qui travaille, il y a une autorité automatique. Ah, et si Dieu n'est pas là, il y a problème. La femme peut prendre le pantalon pour dire, c'est moi qui dirige, c'est moi qui gouverne, parce que c'est moi qui amène de l'argent dans la maison. Attention, femme, attention. Dieu a donné ses ordres, il faut les respecter. C'est vrai, le père n'a pas d'argent, il ne travaille pas, parce que nous savons tous ce qui se passe. Ce n'est pas en France seulement, à travers le monde, concernant le chômage. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de piétiner l'autorité du père. Ce n'est pas une raison de l'humilier. Ce n'est pas une raison de le prendre comme pour le mettre à l'index. C'est une situation, puisque dans le mariage, vous avez dit oui. Oui en toutes circonstances, oui dans la maladie, oui dans la pauvreté. Et alors, pourquoi vous êtes infidèle? Dieu, il est fidèle. Et nous sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. Pourquoi nous ne le sommes pas? Si Dieu regardait notre situation, notre façon de vivre, nous serions tous dans des poubelles sociales. Parce que nous ne sommes rien sinon que la grâce de Dieu. Un père a toujours compassion de ses enfants. Est-ce que vous le savez? Dieu, notre Père, il a des compassions. Toujours pour nous. Et nous aussi, nous devrions avoir toujours de la compassion. Regardez, c'est écrit dans la Bible. Dans Psaume 103, Psaume 103. C'est un psaume de David, hein? Le modèle du Père. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Si nous voulons mettre Père à la place de l'Éternel, il dit: le Père est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà le travail d'un Père. Un Père compatissant. Et cette partie était sortie dans la sonnette là tout à l'heure. Un Père agressif. Il ne veut même pas entendre la femme. Et c'est comme ça, hein, dans beaucoup de familles. Nous souhaiterions qu'il n'y ait pas de père de la sorte ce matin dans la salle. Nous souhaitons qu'il y ait de pères responsables qui aiment les enfants, qui éduquent les enfants, qui ne laissent pas aux enfants le droit de faire ce qu'ils veulent. Et après, les conséquences vont retourner sur le père et la mère dans la maison. On espère que nous ne sommes pas des pères irresponsables. Et quant à vous, les enfants, voici le message de votre père. Ce matin, c'est dans le Proverbe, chapitre 1er, du verset 8. Proverbe, chapitre 1er, verset 8. Proverbe 1er, verset 8 à 10. Proverbe est écrit par qui? Par Salomon. Hein? Salomon qui fait l'objet de notre prédication. David l'avait ordonné et à partir de là, nous pouvons dire que Salomon l'a mis en pratique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Des fois, les enfants sont arrivés avec des idées. Soit quelqu'un l'a invité, soit quelqu'un l'a dit ceci, soit quelqu'un l'a dit cela. Ça veut dire, l'enfant a cédé. Hein? L'enfant a cédé. Et pourquoi vous ne pouvez pas résister devant ces offres? Nous n'avons pas toujours à suivre les autres. Pourquoi les autres ne peuvent pas nous suivre? Réfléchis bien. Si quelqu'un me demande d'aller ailleurs, et bien vous partez. Et pourquoi ce n'est pas moi qui vous demande de venir ici? On est toujours des faibles et pourtant la force est en nous. Ah oui, l'Éternel disait à Gédéon: va avec la force que tu as. Nous avons la force du Saint-Esprit en nous. Pourquoi nous nous laissons céder par les autres, par les petites offres? Quelqu'un vous demande d'aller dans son église. Bon, il n'y a pas un problème. Mais vous allez à l'église. Il faut comparer ce qui se fait là-bas avec ce qui se fait ici. Si quelqu'un vous dit là-bas, vous pouvez être sauvé à condition que vous avez le baptême par immersion. Et vous retournez encore pour rester dans la doctrine baptême par immersion sauve. Non, la Bible dit, pour être sauvé, il faut avoir la foi. Mais il faut dire ça quand vous allez là-bas.
Et le mal, c'est que vous retournez. Vous retournez. Elle est où votre doctrine? Paul, il disait, moi, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que vous savez, vous, en qui vous croyez ce matin? Et la promesse pour les enfants ce matin, c'est que honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est une bénédiction. Et c'est là la seule promesse qu'il y a pour les enfants de la Bible. Alors, qui est votre père ce matin? Est-ce que c'est le père de vérité ou bien le père de mensonge? Ah, je n'ai pas besoin de savoir si c'est Idénier, si c'est Roland, si c'est Aldo, si c'est Jean-Pierre. Pas besoin de savoir. Mais qui est votre père ce matin? Est-ce que c'est le père de vérité ou bien le père menteur? Est-ce que c'est le père qui construit ou bien le père qui détruit? Si vous avez le Dieu vivant pour votre père ce matin, vous êtes heureux. Si vous avez le Dieu vivant pour votre père ce matin, vous êtes consolé. Parce que c'est de lui que viennent toutes consolations. Je vous exhorte ce matin à être des hommes comme Salomon dans la sagesse. Il est appelé père de la sagesse. Je vous exhorte à être comme Jésus dans l'amour. Soyons des pères comme Abraham dans la foi, puisqu'il est notre père dans la foi. Et comme David, le père responsable. Que Dieu veuille nous bénir de toutes ses grâces et de nous conduire selon sa parole. Nous pouvons aller avec ce passage dans Jacques. Jacques chapitre 1er, verset 17. C'est un passage que tout le monde connaît, si je comprends bien. Regarde ce qu'il dit. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que Dieu vous bénisse.